Notre Dieu, ce verset de cantique évoque pour nous l'action du Saint-Esprit pendant que, comme Rebecca autrefois, nous allons vers notre époux. Et pendant tout le chemin, le serviteur fidèle parlait à la future épouse de son bien-aimé, de celui qui allait être son bien-aimé. Combien nous sommes désireux que ton esprit, en effet, pendant le voyage et jusqu'au bout du voyage, rende témoignage du Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur avait dit. Celui-ci me glorifiera et rendra témoignage de moi. Alors, nous chantons bien, en effet, d'un seul cœur, que nous sommes conduits par ton esprit. Mais alors donne-nous des oreilles qui soient à l'écoute de cette hôte discret de nos cœurs et que nous le laissons nous enseigner. Nous te demandons cette chose et cela au début de cet entretien encore et nous te rendons grâce pour tout ton amour au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Donc nous reprenons la lecture en 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai le don de prophétie, si je connais tous les mystères et possède toute la connaissance, si j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On pourrait dire tout le chapitre, certainement, mais on peut aller au verset 8. L'amour ne périt jamais, or y a-t-il des prophéties, elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Et puis, donc pour le troisième aspect, l'esprit de conseil, de sang au bon sens, au chapitre 14, c'est quelques portions. Ils ne sont pas limitatives, on donne la lecture à ces portions-là. Poursuivez l'amour et désirez ardemment les dons spirituels. Et surtout celui de prophétiser. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, il prononce des mystères, tandis que celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je désire que vous parliez tous en langue, mais bien davantage que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, sauf si ce dernier traduit, afin que l'assemblée reçoive de l'édification. Et puis au verset 12, de même, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment doué pour l'édification de l'assemblée. Verset 15, alors que faire? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, que tu as béni avec l'esprit, comment celui qui est dans la position d'un homme simple dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, verset 17 aussi. Car toi, tu rends bien grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Au verset 26 maintenant, jusqu'à la fin du chapitre. Que faire alors, frère, quand vous vous réunissez, chacun de vous à un psaume, à un enseignement, à une révélation, à une parole en langue, à une interprétation, que tout se passe pour l'édification. Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit deux ou tout au plus trois qui parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un traduise. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée, et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Que les prophètes parlent deux ou trois, et que les autres jugent. Et si une révélation a été faite à un homme qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme aussi le dit la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'assemblée. La parole de Dieu est-elle sortie de chez vous, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Ainsi, frère, désirez ardemment prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.
On a vu ce matin, je vous retranscris un commentaire lu à propos du verset 31, ça peut être un petit peu mystérieux. Je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Et ce commentaire dit que les différents dons qui ont été vus au chapitre 12, qui avaient pour but le service de l'autre et le bien de l'ensemble, ces différents dons qui étaient classés selon l'esprit des gens avec des niveaux d'importance différents, entre autres typiquement les Corinthiens mettaient le don des langues, donc la capacité de parler une langue étrangère sans l'avoir apprise à l'école, le mettaient au-dessus des autres, parce que c'était bien la preuve qu'il y avait quelque chose de mystérieux et de palpable qui leur arrivait, ils le mettaient au-dessus des autres. L'apôtre renverse cet ordre-là, dit mais les langues c'est pas tout, hein, il y a d'autres choses aussi qui sont importantes. Il n'y a pas de don plus important que les autres. Jean-Philippe a souligné l'aide ce matin, quelque chose qui peut paraître minime, mais qui est incontournable et indispensable pour l'ensemble. Et puis, l'apôtre termine, je vous montre un chemin bien plus excellent. Eh bien, ce commentaire dit, ce verset-là, c'est l'introduction au chapitre suivant, qui montre que l'essence même de des relations et du service mutuel, c'est l'amour. Un chemin bien plus excellent, parce qu'au lieu d'être la façon dont cet amour va opérer, c'est l'essence même, l'origine même de ce qui est le lien entre les différentes personnes de l'Église.
La fin du chapitre 12 termine « Désirer avec ardeur donc les dons de grâce les plus grands ». La motivation de cette ardeur, c'est l'amour. Alors, peut-être que, à propos de l'amour, on a peut-être une vue réductrice de ce qu'est l'amour, en tant que sentiment. Et je crois que c'est l'amour fraternel, ça. Mais l'amour dont il est question ici, c'est l'action, agir pour le bien des autres. Ici, dans ce chapitre, on dira tous que le chapitre 13 de 1 Corinthiens, c'est le chapitre de l'amour, de même que le chapitre 15 est le chapitre de la résurrection, de même que le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est le chapitre de la foi. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on voit la foi en action. Ici, on voit l'amour en action. Quand le Seigneur Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, il ne nous demande pas d'aller serrer sur notre cœur quelqu'un qui nous a fait du tort et qui nous déteste. Mais il nous demande d'agir pour le bien de celui qui ne nous aime pas. C'est une action. Et quand nous sommes exhortés à aimer, nous sommes invités à agir pour le bien des autres. Quand le Seigneur Jésus, quand il est question de l'amour de Dieu, c'est l'amour qui donne. Il donne son Fils. C'est une action. L'amour du Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui se donne. Il s'est donné lui-même pour nous. C'est une action. Et ici, l'amour dont il est question ici, c'est une action pour le bien des autres. C'est se donner. Et c'est la motivation profonde de tout service, de tout exercice de don, de tout ce que nous pouvons faire l'un et l'autre sous la direction du Saint-Esprit et pour le bien de nos frères et sœurs.
Je vais faire une petite digression par rapport au sujet de base. Dans ce verset premier, il est écrit « Si je parle dans les langues des hommes et des anges ». Alors, il y a des chrétiens qui pensent qu'il existe un langage extatique, donc un langage qui n'est pas le langage courant qu'on trouve sur la terre, et qui serait le langage des anges, et que donc un chrétien pourrait être amené à parler ce langage-là. C'est une interprétation. Je ne sais pas si elle est juste ou fausse. Moi, personnellement, je n'y adhère pas, mais ça n'engage que moi. En tout cas, c'est une interprétation. Ce qui n'est pas une interprétation, en revanche, c'est quand on regarde dans la parole de Dieu comment des anges ont parlé à des hommes. Et si vous regardez tous les exemples qui sont donnés, que des anges se soient adressés à des hommes dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ils ont toujours parlé la langue que l'homme auquel ils s'adressaient était capable de comprendre. Ce qui fait que, il me semble, une bonne façon de comprendre ce verset, c'est de dire, si je parle dans les langues des hommes, les hommes qui habitent autour de moi, si je suis en Mésopotamie, voilà, les pays voisins, et même les langues des anges, c'est-à-dire des hommes qui sont à l'autre bout de la terre, mais que les anges peuvent utiliser pour se révéler, mais que je n'ai pas l'amour, alors ça ne sert à rien. Je crois que c'est là le sens de ce verset, plutôt que d'aller chercher un langage extatique. L'un est une interprétation, l'autre en regardant la parole qui s'explique par la parole.
Michael dit que l'amour est la langue universelle. Oui, c'est une question, oui. Peut-être juste dire que en tout cas, c'est un langage que nous avons tous à parler et à nous comprendre, ce langage-là. Dans 1 Corinthiens 12, on a vu tout à l'heure qu'il y a différents membres. On a vu qu'il y a l'œil, la main, la tête et les pieds. Et là, c'est comme si Dieu nous parlait d'un autre membre de ce corps qui peut être le cœur. 1 Corinthiens 13, c'est le cœur. Et c'est le membre le plus important. Et si on a parlé tout à l'heure de la complémentarité, le pied et la main, donc on va dire les serviteurs qui agissent, les chrétiens actifs, nomades, eh bien ils ont aussi besoin de l'oreille et de l'œil, de ceux qu'on appellerait bon, aussi les chrétiens de salon, qui sont là plus pour écouter, pour parler, pourquoi pas, pour voir. On a tous besoin les uns des autres. Les chrétiens de salon ont besoin des chrétiens actifs et vice-versa. Mais tous ensemble, qu'on soit des chrétiens plus actifs, ou peut-être moins actifs, parce que parfois il y a des personnes qui sont retenues, par exemple, à la maison, et qui peuvent être ces chrétiens de salon, qui peuvent prier pour les autres. On a tous besoin, vraiment, de vivre notre don, notre service dans l'amour, et de parler ce langage-là. Il me semble qu'à Corinthe, c'était le problème. Il y avait beaucoup de dons, mais il y avait peu d'amour.
Quand on lit la première épître de Jean, et qu'on arrive au chapitre 4, on trouve deux fois cette expression, au verset 8 et au verset 16, « Dieu est amour ». C'est son essence même. Moi j'écoute, je lis ce début du verset 13, et je comprends que si derrière toutes les manifestations, il n'y a pas l'essence même de Dieu, ce qui a tout son pouvoir, puisque Dieu est amour, eh bien, c'est superficiel, et ça n'apporte rien, et ça n'édifie pas. Des manifestations qui seraient seulement des manifestations extérieures, une sorte de caricature, même si c'est tellement bien enveloppé qu'on peut s'y tromper, s'il n'y a pas derrière Dieu véritablement source de tout, comme on l'a vu dans le chapitre 12, et si l'essence de Dieu, à savoir l'amour, n'est pas là, eh bien, ça n'est rien. C'est quelque chose qui, pour moi, me touche profondément, et Dieu me demande véritablement d'aller jusqu'à cette source-là, d'être continuellement en contact avec cette source-là, pour que ce soit elle qui alimente toutes les manifestations.
Dire que l'amour est le langage universel, c'est une jolie formule, mais c'est très abstrait. Alors qu'on doit agir avec amour envers tous les hommes, c'est vrai. Ce qu'il y a de donc on a dit tout à l'heure que l'amour doit être à la base de donc on a dit au chapitre 12 que chacun en a une fonction et que l'amour doit être le moteur de cette fonction. Ce qu'il y a de bien dans ce chapitre, c'est qu'il est extrêmement concret. Alors on n'a pas lu, c'est peut-être dommage, on n'avait pas le temps, de verset 4 au verset 8, verset 7. C'est très pratique, donc dans tout ce qu'on fait, on n'a qu'à lire ces versets et puis dire ça je fais ou ça je fais pas. Et peut-être que ça nous aidera à comprendre ce que c'est que... à vérifier que c'est bien l'amour qui est à la base de notre service, de la fonction qu'on accomplit dans l'Église. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout.
On peut remarquer que dans ce passage, il n'y a pas d'exhortation. On n'est pas exhorté dans tout ce chapitre. Ce sont des affirmations. Des affirmations, et que ce soit dans le domaine de la pensée, de la parole et des actes, vous voyez, dans le chapitre, au début, il est question de la parole, puis au verset 2, il est question de la pensée. Au verset 3, des actes, eh bien, tout ce qui se manifeste par, du moins par la pensée, les actes ou les paroles, évidemment, n'a de valeur que si elle est l'amour. Mais Dieu le sait, Dieu le sait, et nous, nous ne pouvons pas savoir s'il y a de l'amour sans qu'il y ait des manifestations extérieures. Nous ne sommes pas dans les cœurs. C'est pareil que pour la foi. La foi, il dit, moi, tu dis que tu as la foi, mais moi je ne le vois pas. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Tu dis que tu es plein d'amour, eh bien, je viens le croire. Mais comment le savoir sinon que par les manifestations que je verrai. Voilà, dans tous les domaines, on peut bien parler, avoir des belles pensées, des hautes pensées, au-dessus de celles qui conviennent d'avoir, comme dit l'Épître aux Romains. On peut avoir de l'intelligence, il le dit, l'apôtre, nous avons tous de l'intelligence, mais l'intelligence enfle et l'amour édifie. Donc, le critère, c'est les fruits. Les fruits, nous voyons l'arbre à son fruit, que ce soit dans le domaine de la foi ou de l'amour. Voilà, ce que nous pouvons comprendre de cette description. Le but, encore une fois, nous ne sommes pas exhortés, nous sommes simplement à nous juger nous-mêmes et savoir ce que peut-être nous ne connaissons pas très bien et nous faisons peut-être des illusions sur nous-mêmes. Je ne sais pas. Tout ça, c'est très sérieux. Et encore une fois, quand je lis ce passage, ce chapitre entier, bien, quand je le lis, c'est pas la première fois, et depuis longtemps, et bien, je me sens un peu gêné, parce que honnêtement, je ne peux pas dire que je réalise ce passage. Chacun peut répondre pour lui-même.
On a dit tout à l'heure que l'amour, que Dieu était amour, c'est donc son caractère fondamental. L'amour n'est aussi pas seulement qu'abstrait. Et on voit cet amour qui se manifeste, l'amour de Dieu. Jean-Luc a rappelé tout à l'heure que l'amour de Dieu nous a donné Jésus. Dans l'évangile de Jean, qu'on a appelé, surnommé l'apôtre de l'amour, on voit à travers quelques expressions ce qu'est cet amour de Dieu, et donc nous avons à l'imiter, à le mettre en pratique, en ayant devant nous cet exemple du Seigneur Jésus qui a marché dans l'amour de Dieu, manifestant et révélant cet amour de Dieu. Alors je vais citer ces passages, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu donne. Est-ce que nous donnons autour de nous quelque chose? C'est la première remarque. Ensuite, Jean 3, verset 35, le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Donc Dieu fait confiance. Il a manifesté. Est-ce que nous faisons confiance? Est-ce que notre amour fait confiance? Dans le chapitre 5 de Jean, nous avons encore une expression au verset 20, j'ai relevé. Le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'admiration. Est-ce que notre amour nous conduit à montrer les choses, à nous dévouer pour les choses? Est-ce que notre amour est actif? Ou est-ce que notre amour s'enferme dans une tour d'ivoire et puis j'aime, mais je ne le manifeste pas? Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire une chose au Père. Il est parfaitement dépendant et obéissant. C'est aussi ce que nous trouvons en Jean 10, dans la manifestation de cet amour. Jean 10, au verset 17, « À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi, je laisse ma vie afin que je la reprenne. L'amour va jusqu'à la mort, totalement dévoué à son Dieu. Il n'y a pas de limite. Bien souvent, on veut aimer, aller jusqu'à un certain point, mais on ne veut pas aller plus loin. Non, lui, je lui en veux. Il m'a fait quelque chose, je retiens quelque chose contre lui, je ne suis pas totalement dévoué. Et puis, cet amour a aussi, et on trouve ça dans Jean 17, dans la prière que le Seigneur a faite, de Jean 17, cet amour est parfaitement, verset 23, afin que le monde connaisse que toi tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cet amour est révélé, il n'est pas caché. Cet amour est inconditionnel puisqu'il était, nous dit la fin du verset 24 de Jean 17, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il était éternel. Et enfin, au verset 26, le Seigneur dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Cet amour révèle le nom du Père. Est-ce que notre but est d'être véritablement pour Dieu un témoin ici-bas, témoin de ce qu'il a fait, témoin de son amour? C'est ce qui nous invite à manifester. Le Seigneur Jésus l'a parfaitement manifesté. On voit dans la personne du Seigneur Jésus cet amour actif. Imitons-le.
Il y a un passage dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, il est question de l'amour de Dieu. Et nous découvrons l'amour à travers l'amour que Dieu a eu pour nous et à travers l'amour que le Seigneur Jésus a eu pour nous. Et à la fin de ce chapitre, au verset 19, nous nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Alors, si vous regardez dans la version classique que vous avez dans les mains, c'est nous nous l'aimons parce que lui nous a aimé. Or, dans le texte, c'est bien nous nous aimons, non pas nous l'aimons, parce que lui nous a aimé le premier. Si je réalise cet amour dont tu viens de nous montrer quelques aspects, si nous réalisons cet amour de Dieu, la conséquence, nous aimons. Et si quelque part, si nous avons tous besoin de grandir dans cette connaissance de l'amour de Dieu, et si quelque part, si quelque part nous sommes déficients, et nous sommes tous déficients quelque part, ce qui nous manque, c'est pas d'essayer de tirer sur quelque chose sur nous pour que nous aimions davantage, ce qui nous manque, c'est d'être beaucoup plus subjugués par l'amour du Seigneur Jésus que par l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas une contemplation mystique, mais c'est tellement anormal que Dieu nous aime ainsi. Nous nous aimons parce que lui nous a aimé le plus vite.
On peut relire un verset qui, je crois, a été cité ce matin, Romains chapitre 5, le verset 5, qui nous ramène un peu dans l'objet de l'étude. Hein. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, cette capacité d'aimer vraiment, comme l'a expliqué Jean Duc, elle vient de Dieu, et est-ce que finalement le plus grand don de l'Esprit, au-delà des langues, des prophéties, etc., ce ne serait pas cette capacité-là d'aimer.
Il me semble que ce don-là, il peut se montrer dans le service, il peut se montrer aussi dans le, dans les paroles. Je pensais, puisqu'on parlait du Seigneur Jésus, c'est Luc 4, verset 22. Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. La grâce est répandue sur ses lèvres. On se souvient tous de frère, lorsque il méditait, on avait vraiment l'impression que c'était la langue du ciel. C'était quelque chose de doux, c'était quelque chose de bienfaisant, c'était quelque chose d'enrichissant. C'était des paroles de grâce. C'était des paroles qui faisaient du bien. C'est un don aussi. C'est facile, on disait ce matin, de prendre un micro et puis de prendre un style très exhortatif et d'affiner des vérités aux autres et de se placer au-dessus des autres. C'est pas ça. Non, c'est pas ça enseigner. On a un exemple, c'est celui de Paul aussi, en 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Peut-être lire à partir du verset 5. Nous n'avons pas jamais usé de flatterie, comme vous le savez, ni de prétexte de cupidité. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de votre part, etc. Puis, verset 7, nous avons été doux au milieu de vous, comme une nourrice chérit ses propres enfants. Ainsi, vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, parce que nous étions devenus fort chers. Il avait vraiment le cœur d'une nourrice. Il avait l'affection d'un frère et il avait l'autorité d'un père. C'était vraiment quelqu'un d'équilibré, l'apôtre Paul. Et il me semble vraiment aussi que c'est un exemple pour nous, pour que lorsque nous sommes amenés à exprimer des choses que nous ressentons, nous puissions le dire avec douceur, avec tact, avec délicatesse. Et cet amour qu'il avait là, il le dit, hein, vous étiez devenus fort chers. Je pense vraiment que c'est ce qui motivait le ministère de l'apôtre Paul, c'est que vraiment il aimait les personnes auquel il s'adressait.
C'est quelque chose qu'on a été amené à exprimer plusieurs fois ce matin, c'est le fait de chercher activement le profit et le bien de l'autre, les progrès de l'autre. Dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, au verset 13, nous avons ce verset, « Personne n'a un plus grand amour » que celui-ci, l'amour, donc, qui laisse sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que ce qui peut lui rapporter quelque chose à lui, ça n'a pas grande importance. L'important, c'est que l'autre profite de quelque chose. L'apôtre Paul a ressenti la même chose quand, dans le chapitre 12 de la seconde épître aux Corinthiens, il dit à ses Corinthiens, « Or moi, très volontiers, je dépenserai, verset 15, et je serai entièrement dépensé pour vos âmes, si même, vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé de vous. » Moins aimé. C'est pas... Peu importe ce qu'il subira, l'important, c'est de dépenser pour les autres. Le Seigneur vient, il s'anéantit, il s'abaisse, il se donne, on sait ce qu'il récolte, jugement inique, mise à mort, moquerie, etc. Une somme de choses dont nous parle le livre des psaumes pour que nous puissions y entrer plus profondément. Peu importe, dit le Seigneur, je les aime. Et je vais leur acquérir quelque chose d'éternel. Est-ce qu'on ressent en soi quelque chose de ceci? Je vois l'un, je vois l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, pour qu'il soit plus heureux, pour qu'il soit plus près du Seigneur, pour un enrichissement spirituel? S'il ne comprend pas, c'est secondaire, mais que je l'aide. Est-ce que le Seigneur a été compris? Pas du tout. Pas du tout.
mais il a fait. Ça, c'est l'amour.
Dans les caractères de l'amour qui nous sont présentés là, il y a 16 caractères si on ajoute l'amour ne périt jamais. Le premier, c'est il se montre patient. Il y a longanimité dans la version. Il se montre patient. Et je pense un peu à la patience du Seigneur vis-à-vis de moi. Et dans ma vie. Et je crois que chacun d'entre nous, on peut se dire combien le Seigneur est patient vis-à-vis de moi. Quand on le voit vis-à-vis des disciples, le nombre de fois qu'il les prend, seul à seul, pour les leur expliquer, et puis aller plus loin, puis aller plus loin. Moi, je vous garantis que ces 12 gaillards-là, il y a longtemps que je les aurais mis à la porte, rupture de contrat de travail, et puis j'en aurais pris d'autres. Eh bien, le Seigneur ne rompt pas le contrat de travail avec ses rachetés, s'ils osent m'exprimer ainsi. Il se montre patient. Et puis, il y a une autre chose, c'est dans notre chapitre, c'est il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Quelque chose qui est clair, et quelque chose qui n'est pas soupçonneux. On est frappé quand on lit les épîtres de voir le regard de Paul sur les gens à qui, les frères et sœurs à qui il écrit. C'est toujours positif. Il relève ce qui est positif. Il n'y a qu'une épître où c'est pas tout à fait comme ça parce que les choses étaient trop graves, c'est l'épître aux Galates. Et pourtant, c'était des gens qui voulaient être rigoureux. Et donc, il relève ce qui est produit par Dieu chez ceux à qui il écrit. Il va aussi parler la vérité. Il y a cet équilibre. Mais il n'y a jamais un esprit d'inquisiteur dans l'amour. Et peut-être que parfois, quand on est en difficulté entre chrétiens, on peut très vite perdre patience, on peut très vite avoir cet esprit inquisiteur, on cherche derrière des apparences quelque chose qui n'y est pas, tout compte fait. En tout cas, ce n'est pas à nous de savoir si ça y est ou pas, c'est la prérogative de Dieu. Et puis, parfois aussi, on n'a pas cet équilibre de se réjouir avec la vérité et de parler aussi la vérité dans l'amour.
Un mot sur le verset 5. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance et surtout, il n'agit pas dans son. Il ne cherche pas son propre intérêt. Voilà. Et l'apôtre le dit aux Thessaloniciens, justement. Je ne cherche pas la gloire qui vient des hommes, au chapitre 2, nous l'avons lu tout à l'heure. Je ne cherche pas la gloire qui vient des hommes. Je n'use pas de flatterie. Peu importe, on prend le risque. On prend le risque de la vérité dans l'amour, et quel risque? Et ça peut aller jusqu'à être détesté. C'est ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens. Vous aimant d'autant plus, peut-être, que moi je serai moins aimé. Mais ce qui compte avant tout, c'est votre intérêt. Je ne cherche pas mon intérêt parce que je vous aime. Je n'use pas de flatterie parce que je vous aime. Je cherche la vérité. Je cherche votre intérêt. Eh bien, si vous m'aimez moins, eh bien, je supporterai. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas. Est-ce que nous réalisons une telle chose? Encore une fois, que chacun le voit en lui-même. Et c'est ce que je fais moi, à moi-même.
Alors, on est dans un contexte, on peut dire que quand Paul entend parler de cette assemblée à Corinthe, il y a du mouvement, ça bouge. beaucoup travaille, beaucoup s'exprime, il y a de la vie. Et, mais quand même, ils ont posé des questions, puisque à partir du chapitre 7, on entend que, à propos de ce que vous m'avez demandé, je ne sais pas comment c'est dit exactement, où vous m'avez écrit, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, donc il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Mais en tout cas, il faut bien se mettre dans un contexte d'une assemblée où il y a un enthousiasme fou. D'ailleurs, ils sont gâtés parce que, dès le début, on entend que vous manquez d'aucun don. Vous êtes enrichi en Christ. Hein, vous manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde s'affaire, et on s'affaire, et finalement, cette assemblée qui est donc dans ce carrefour particulier, il y a un port, il y a des gens qui viennent de partout, qui vont annoncer l'Évangile, et voilà que des gens de toutes les pays arrivent, et merveille des merveilles, et l'un va pouvoir parler dans une langue, et il va entendre l'Évangile, etc. Et c'est donc un peu l'euphorie. Et puis l'euphorie amène le manque quelquefois de réflexion, et on est tous là à travailler, à s'activer, en oubliant quelquefois qu'on ne travaille pas pour travailler, mais vraiment on travaille parce qu'on est au service d'un maître, du Seigneur, qui est le chef du corps, le Christ. Et alors c'est vrai que quand on lit ces versets en pensant à ça, on se rend compte, peut-être qu'on pourrait se dire, mais comment est-ce que nous vivons localement la vie d'Église ? Est-ce qu'on est là à essayer de maintenir quelque chose, par exemple ? Parce que la question, c'est qu'il faut que ça tienne dans le temps. C'est pas le tout, une Église qui commence, qui démarre, et tout se passe assez bien. Il y a quelques difficultés, là, mais comment ça va fonctionner dans le temps ? Pour que des personnes nouvellement converties puissent grandir, devenir adultes et elles-mêmes apporter aux autres. C'est ça la recherche. Alors c'est vraiment comme on l'a vu, quelle est ma motivation ? C'est d'abord aimer, toujours aimer le Seigneur, et ça m'amènera à aimer mes frères et mes sœurs, c'est ce qu'on vient de dire. Mais alors, il faudrait faire bien attention à pas lire les versets dans l'autre sens. Je voudrais faire exprès. Par exemple, on dit, mais là, j'aurai toute la connaissance, etc. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc j'ai l'amour et je suis tout. Je n'ai pas besoin d'apprendre. On pourrait dire, tiens, comme ça. Non, ça, c'est faux. Par exemple, on pourrait aussi dire, je donnerai, je distribuerai en aliments, etc. Et je ferai, et si je n'ai pas l'amour, ça ne profite de rien. Donc j'ai l'amour et je ne donne rien. Mais ça, Guillaume nous en a un peu parlé tout à l'heure. Donc pour dire que, encore une fois, tout ce que cette démonstration de l'apôtre Paul veut encore une fois nous dire, c'est dans le crédit, et je voudrais le redire, quelle est la source de ma vie de chaque jour ? Qu'est-ce qui alimente mon intérieur, mon âme, chaque jour ? Et ça, c'est, les choses vont se faire d'une manière équilibrée. Chacun va trouver sa place d'une manière équilibrée. Ça va être le résultat. Ici, il y a quelque chose que nous remarquons, c'est que l'amour est comme la clé de ces relations. Est-ce que quand je vis ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui me préoccupe ? Il est dit un peu plus loin, il est parlé d'un enfant. On n'a peut-être pas lu ce texte, mais je voudrais le lire pour expliquer quelque chose. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, etc. Et à un moment donné, je deviendrai adulte. Quelle est la caractéristique de l'enfant ? L'enfant aime ce qui est spectaculaire, hein, ce qui l'émerveille. Ça, c'est peut-être la connaissance, bon, on va essayer de prendre. Peut-être parler des langues qu'on n'a pas apprises, mais ça, c'est quand même extraordinaire. Ça marque la caractéristique de l'enfant. Mais il y a autre chose. Ce qui caractérise l'enfant, c'est son univers. Quel est le centre pour un enfant, le centre de l'univers, c'est lui. Et justement, ça c'est un peu la clé de tout notre sujet. Si notre manière de fonctionner est que je sois important, l'importance est un peu le centre de la vie, ce que je suis, ce qu'on pense de moi, le regard des autres, hein, alors on va se retrouver dans un décalage total avec notre texte, C'est-à-dire qu'on ne saura pas être comme un adulte qui a comme préoccupation non plus lui-même, mais l'extérieur, donc Seigneur et les autres, et les frères et sœurs, et même les non-croyants. Voilà, ça c'est la caractéristique de l'adulte. Et l'adulte, eh bien, a cette possibilité d'aimer. Alors comment est-ce qu'on devient un adulte? Eh bien, en ayant encore une vie de relation avec le Seigneur. La prière, la lecture de la parole de Dieu quotidiennement. Et aujourd'hui, il y a tant de temps perdu, parce qu'il y a tant de choses intéressantes à faire. Alors, on devient difficilement des adultes. Et c'est peut-être aussi ce que je voulais dire là maintenant. Tout ce que l'on peut vivre là, c'est si on est des adultes spirituels. Ou alors si on s'envers, parce que peut-être qu'on n'y est pas arrivé, on y arrivera peut-être très, très difficilement. En tout cas, pas complètement, puisque justement ce texte va nous dire que c'est que quand nous serons avec le Seigneur, où nous verrons face à face, que là nous serons définitivement des adultes dans notre relation avec le Seigneur.
L'homme spirituel, adulte, ne se montre pas par des actions extraordinaires, spectaculaires, il se montre par la foi agissant par l'amour.
Alors, tout ce que nous avons entendu, nous pourrons en faire le tour, relire en particulier les indications qui sont données du verset 4 jusqu'à la fin du verset 7, qui sont là comme des pierres de touche, une autre manière de l'exprimer, pour savoir si véritablement nous avons compris le début du chapitre, c'est-à-dire que l'amour est véritablement la source divine qui nous fait agir. Alors maintenant, il ne s'agit pas d'avoir entendu ceci, même d'avoir fait un tour, momentanément, ponctuellement, d'avoir même touché du doigt certains points en disant « ça oui », enfin, selon notre appréciation, hein, parce qu'on se donne volontiers des bons points, mais pas ça, pas ça, bon, ici je dois faire un effort, bon, puis on passe à autre chose. Mais moi je lis au début du verset 14, poursuivez l'amour. Autrement dit, le reste sans l'amour, ça n'est rien. Si maintenant j'ai compris ceci, et que je passe à autre chose en oubliant l'amour, eh bien, de nouveau, tout est perdu, je reviens au commencement, et les choses ne sont pas ce que Dieu veut qu'elles soient. Donc, je ne dois jamais oublier cela. L'amour, sans lequel rien n'apporte de profit. Poursuivez l'amour. Alors, il y a ensuite des choses à désirer, parce qu'elles sont utiles, et regardons tout de suite cette orientation vers les autres. Édification, exhortation, consolation, verset 3. Tout de suite une orientation vers les autres, et ce don de prophète qui parle pour l'édification, l'exhortation, la consolation. Pour construire quelque chose de solide, pour remettre un certain nombre de choses en ordre, et pour apaiser le cœur, et donner, fournir, en quelque sorte, les moyens d'une nouvelle énergie pour aller de l'avant.
Un des mots-clés de ce chapitre 14, c'est donc édification, construire. Et peut-être le verset, un des versets clés, c'est à la fin du verset 28, que tout se fasse pour l'édification, quoi qu'il arrive. Et puis, une des autres choses, peut-être, c'est la paix. Verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. La manifestation de Dieu qui produira la paix. Alors, quand il est question de désirer des dons spirituels, est-ce que, ici, frères et sœurs, dans nos prières, est-ce que nous avons demandé des dons spirituels? Est-ce que nous avons demandé au Seigneur d'être au service, à son service, et qu'il nous donne ce qu'il veut pour servir? Une capacité qui vient de lui pour servir les autres. Et parfois on dit, mais quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je dois demander? Il y a quand même une chose qui nous est dit clairement plusieurs fois dans ces chapitres, c'est désirer avec ardeur des dons spirituels. Chapitre 12, verset 31, chapitre 14, verset 1er, chapitre 14, verset 12. Cherchez en être abondamment de Dieu pour l'édification de l'assemblée. Demander des dons. Alors, demander que le Seigneur donne des dons à l'Assemblée, on est d'accord? Mais il faut se rappeler une chose. À un moment donné, le Seigneur Jésus, c'est à la fin, dans l'évangile selon Matthieu, à la fin d'un chapitre 9, je crois, enfin, vous chercherez, il dit aux disciples, il dit, suppliez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et aux mêmes disciples, à qui il dit, suppliez, le verset suivant, il les envoie. C'est-à-dire que on a prié pour que le Seigneur donne des dons, et en même temps s'attendre à ce qu'il nous envoie pour travailler. C'est pas pour les autres. C'est pas Seigneur, donne-moi d'être un chrétien dans mon fauteuil, quand il y avait un chrétien de salon, et donne à Étienne d'aller se salir les mains dans le travail. C'est non, être prêt à partir. À servir, et ça c'est formidable.
Alors pourquoi il faut les demander, puisque au chapitre 12 il nous est dit qu'il était donné. Je crois que c'est les deux faces d'un.
Pourquoi il nous a demandé de désirer les dons spirituels, puisqu'au chapitre 12 on a vu que Dieu, l'Esprit est donné. Je suppose que c'est les deux faces d'une même chose. D'un côté, oui, c'est vrai, c'est Dieu qui le donne, mais il ne les donne pas comme ça, on n'est pas avec un gêne pour tel service ou un gêne pour tel service. C'est la façon dont on va vivre, dont on aura à cœur l'Église, que le Seigneur donnera tout le tel don. C'est comme pour le salut. Il y a d'un côté, c'est pas nous qui nous sauvons, c'est Dieu qui nous sauve. Mais il ne sauve pas n'importe qui, il sauve ceux qui le cherchent. Et je crois que c'est intéressant de penser à cela. Oui, c'est la souveraineté de Dieu. Pas moyen de s'enorgueillir. Mais il faut qu'on soit, comme le dit Jean-Luc, qu'on en ait envie.
C'est 14, un petit peu différemment de toi, Jean. Et je voudrais insister sur quelque chose qu'a dit Jean-Luc. C'est un peu comme sa pensée que je saisis là. Désirer avec ardeur les dons spirituels pour moi. Et puis, il y a quelque chose derrière. Mais surtout, de prophétiser. C'est-à-dire qu'il y a le fait de posséder le don et le fait d'agir. Et je voudrais insister sur les choses qu'a dit Jean-Luc, le reformuler de manière plus forte. Il faut qu'on sache demander au Seigneur, « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la capacité d'être utile là où tu me places, dans l'église locale,
dans mon environnement professionnel, dans mon environnement de voisinage, dans ma famille. Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, la capacité. Première prière. Deuxième prière, et elle n'est peut-être pas évidente, c'est Seigneur, donne-moi de le faire quand j'aurai cette capacité. Donne-moi de ne pas rester dans mon coin en disant oui, je suis capable de, mais non, j'ose pas, je ne veux pas faire, etc. Il me semble que c'est ça. Il y a un prix derrière. Jean-Luc l'a dit, c'est magnifique si on se laisse aller par le Seigneur, faire l'expérience d'être appelé à quelque chose en ayant la conscience de ne pas être capable de faire cette chose. Et en disant, je pense foncièrement que le Seigneur me demande de le faire, donc je vais essayer de le faire. Et là, le vivre avec lui, je crois que c'est ça. Désirer avec ardeur les dons spirituels. Aimer l'autre au point de rechercher l'occasion de se dépenser davantage pour l'autre et se dépenser de manière pertinente et utile parce que le Seigneur aura donné la capacité pour le faire. Alors c'est comme ça que je comprends ce verset-là, de désirer plus ardemment, d'être prêt à se dépenser davantage.
On peut dire que le don, comme par définition, nous est donné. Il nous est donné, puis ensuite, reste à savoir qu'est-ce que nous en ferons. Vous voyez, dans le chapitre 12, nous avons vu tous les organes, la main, le pied, l'œil, l'odorat. Ce sont des capacités qui sont là, inhérentes à l'organe, au membre. Le membre est doué. Mais encore, faudra-t-il qu'il soit obéissant aux impulsions de la tête. Une main ne sert à rien, une main a beaucoup de capacités, mais elle ne sera utile que si elle agit, évidemment, par la direction et la dépendance de la volonté centrale, du gouvernement central. C'est ce qu'on disait dimanche dernier, le propos de Dieu, c'est qu'il y ait un pouvoir central. Ce n'est pas l'anarchie et encore même pas la démocratie. Il y a quelqu'un qui commande la tête du corps. Les membres sont doués, chacun spécialement, et encore faut-il qu'ils obéissent. Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit là, Timothée. Timothée, on l'a déjà lu, il était timide, et on lui a demandé de ranimer le don qui était en lui. Et nous, si nous lisons aussi dans 1 Timothée chapitre 4, qu'est-ce qu'il est dit au verset 8 ? Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes ces choses. Il y a les promesses de la vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est certaine. Et voilà. Et puis, il nous est dit, ordonne, verset 11, ces choses, enseigne-les, soit le modèle des fidèles. Il nous est dit aussi, attache-toi à la lecture. Il y a tout un exercice, toute une vie spirituelle qui donnera la capacité de faire usage de ce don. Et vous voyez, au verset 14, il est demandé de ne pas négliger le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Il y a donc toute une panoplie d'exhortations compte tenu du don. Et d'ailleurs, le don nous donne des responsabilités. C'est un privilège d'avoir les dons, mais aussi nos responsabilités. Voilà. Finalement, le grand mot, c'est la piété. Exerce-toi à la piété.
Je pourrais te poser la question, on a besoin de quoi? Tiens, en France, là, il y a quelques années, il faut des informaticiens. Alors, tout le monde en part vers les informaticiens et il y en a partout sur le marché. Seulement le problème, actuellement, on ne peut pas construire de locaux, il n'y a pas de maçons. Tiens, ça ne fonctionne pas bien. Alors, et puis il n'y a plus de médecins. Il y a donc pour se faire soigner. Dans les campagnes, il n'y a plus de médecins. C'est déséquilibré, ça ne va pas. Alors ici, on n'est pas dans un organisme comme ça, mais quand même, si on veut que le corps humain fonctionne bien, il faut que chaque partie puisse bien fonctionner. Hein, il ne faut pas 15 pieds et puis, c'est pas pas d'œil, parce que, je sais pas, on est une période où on n'a pas besoin d'yeux, je sais pas. Alors, on a besoin de quoi actuellement? Pour réfléchir, à l'Assemblée locale, à La Rochelle, on a besoin de quoi? Parce que là, désirer, bon, bien sûr, premier verset, poursuivez l'amour et désirer avec ardeur des dons spirituels et surtout de prophétiser. On verra pourquoi surtout de prophétiser, parce que il y a même un problème avec les langues, hein, c'est aussi le contexte. Mais quand même, le verset 12 nous dit bien, hein, ils avaient envie que ça fonctionne bien. Mais il dit chercher à en être abondamment doué, donc oui, alors on va se préparer pour, mais attention, c'est pour l'édification, c'est-à-dire pour que ça grandisse. Hein. Admettez qu'il y a un mur qui se construise et de côté ça ne se construit pas, parce qu'il n'y a personne pour construire là. Alors ce qui fait qu'il va y avoir un mur, mais ça va faire une maison, ça va pas, ça ne sera pas solide, ça n'ira pas. Donc qu'est-ce qu'on a, on a besoin de quoi aujourd'hui? Alors c'est sûr qu'en tout cas, de prophétiser dans le sens que édifier, exhorter, consoler, ça de toute façon, hein, quelle que soit la génération, hein, en 2006, on a besoin de ça, de toute façon. Mais quand même, hein, on se dit, est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui manque finalement, vous dire, qu'est-ce qui manque? Donc, s'il manque quelque chose, on a au début, vous manquez de rien. Est-ce que vous croyez qu'en 2006, Dieu va nous dire, bah, vous êtes en 2006, désolé, hein, du temps de Corinthe, ça marchait bien, maintenant, ben, il y a des trous, hein, et ça. Non, c'est pas vrai. Ça marche aussi bien maintenant. On a en tout cas tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Alors peut-être pas avec des choses aussi extraordinaires qu'il y avait à Corinthe, mais en tout cas, le corps de Christ aujourd'hui va fonctionner aussi bien que du temps de Corinthe, si chacun fonctionne à sa place. Alors on manque de quoi? À ce moment-là, réfléchissons tous, et c'est peut-être l'occasion dans nos églises locales de réfléchir qu'est-ce qui manque, et peut-être de pouvoir prier d'une manière spéciale pour que justement, parmi les frères et les sœurs qui composent les rassemblements locaux, eh bien, le Seigneur puisse former, bien ceux qui sont formés, et qui n'ont pas la possibilité de fonctionner, qui n'osent pas, qui ont besoin d'eux, etc. Pour que, effectivement, chaque assemblée locale puisse être le lieu où chaque croyant puisse grandir. Grandir de manière à pouvoir être autonome et pouvoir lui-même apporter aux autres.
Je voulais dire un mot sur, d'un côté, Dieu qui fait tout, et de l'autre côté, notre engagement. Dieu, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, ne force personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et tous ne sont pas sauvés. Les personnes divines attendent de notre part un engagement. L'ouverture de nos cœurs. L'ouverture pour servir, pour être une aide peut-être pour commencer. On peut peut-être pas désirer le don le plus excellent si on n'a pas fait ses preuves dans le chemin devant Dieu. Il faut s'engager de cœur, de nos cœurs, pour désirer servir, servir le Seigneur. Être à la disposition du Saint-Esprit, nous livrer nos corps totalement pour servir, et le Saint-Esprit, les personnes divines, nous utiliseront pour faire quelque chose, et nous ferons progresser et avancer au fur et à mesure. Je repense à ce verset de début de l'Épître de Pierre, où nous sommes exhortés. On va le déformer si je le cite de mémoire. Le premier, hein, Pierre 1, élu selon la préconnaissance de Dieu le Père en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Obéir comme le Seigneur Jésus obéit, dépendant et attendant que le Saint-Esprit nous montre ce que nous avons à faire.
Est-ce que... la lecture seulement de deux pierres.
Deux pierres, précisément, nous avons tout reçu, tout ce qu'il faut. Mais encore faut-il en faire quelque chose. Verset 3, deux pierres, un, trois. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde à la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez à sa sainteté, vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison, vous y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu et la suite. Et puis au verset 8, car si ces choses sont en vous et abondent, elles feront que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous voyez, d'un côté, nous n'avons rien, pas d'excuses. Nous avons reçu tout ce qu'il nous faut. Nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit Saint, nous avons tout ce qui regarde la vie et la piété. Alors, comme tu viens de dire, faisons fructifier ce talent, on pourrait dire, et combien nous avons à demander par la prière le secours pour précisément faire fructifier ces facultés, ces dons qui nous ont été donnés et par une grâce infinie.
Il y a donc ce qu'on a vu dans l'étude de Pierre, c'est pour la vie chrétienne ordinaire, si j'ose dire, pour ma croissance. Et un des premiers éléments qui est donné, c'est la vertu, autrement dit l'énergie spirituelle pour travailler. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on va connaître davantage le Seigneur, et la connaissance du Seigneur donnera de l'activité, donnera la source du service. Mais dans notre chapitre, les questions, là, dans ce qu'on a lu, il est question en particulier de l'action de l'Esprit de Dieu dans le corps de Christ et dans les assemblées locales pour le bien et pour l'édification dans cette assemblée, de telle sorte que les choses se passent avec ordre et se passent d'une façon qui soit selon Dieu. Et donc les Corinthiens, ils avaient fait de leur réunion d'assemblée, parce qu'il y a quand même la réunion d'édification, là, ce qu'on appelle nous la réunion d'édification, ils avaient fait de la réunion d'édification, ils en avaient fait un champ de compétition à celui qui parlerait le plus en langue et qui impressionnerait davantage ceux qui sont autour, moi le premier. Et dans un sens, l'apôtre Paul redresse ce point-là, et il redresse ce point-là pour réorienter les choses de telle sorte que ce que Dieu a donné soit utilisé comme Dieu le veut. Quant aux dons spirituels, j'aimerais quand même faire une petite distinction entre des dons naturels, les capacités humaines de quelqu'un, et les dons spirituels. Nous sommes les uns et les autres, nous avons des capacités naturelles de par notre naissance, ce que Dieu nous a donné, c'est aussi une capacité que Dieu donne, mais il y en a un qui sera plus fort en mathématiques et l'autre plus fort en lettres. Il y a des gens qui savent écrire et d'autres qui voudraient mieux qu'ils n'écrivent pas. Il y a des gens qui savent parler et d'autres qui voudraient mieux qu'ils se taisent. Et il y a des gens qui ont des capacités naturelles, mais une capacité naturelle n'est pas un don de l'esprit. Dieu nous engage à mettre tout notre être à son service. Et il utilisera nos capacités naturelles pour son service. Il peut utiliser quelqu'un, je ne sais pas, qui a des très fortes capacités pour organiser, il va être utile, mais ce n'est pas un don de l'esprit. Mais un don de l'esprit de Dieu, ces dons dont il est question là, c'est une capacité donnée par l'esprit de Dieu pour un service spécial. En particulier, par exemple, si on prend donc le don des langues, on en a parlé, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un pour parler une autre langue sans l'avoir appris, de telle sorte que celui à qui il s'adresse puisse comprendre. Par exemple, si tout d'un coup il rentrait ici quelqu'un qui ne parle que le russe, et que Daniel, méchant, tu vois, se lève et lui parle en russe sans jamais avoir appris le russe, ça c'est un don de l'esprit, c'est pour pour l'utiliser. Bon, il y a un autre aspect. Il donne la capacité, par exemple, d'être docteur. On a vu dans les dons le fait d'être docteur. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est question de pasteur et docteur. Et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, quand il est question de ces dons-là, les deux dons sont liés. De telle sorte que le docteur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre la parole de Dieu et de l'appliquer aux âmes. Et le pasteur, c'est quelqu'un de capable de la parole de Dieu et de prendre soin des âmes, de les nourrir. Et si par exemple quelqu'un reçoit, l'un d'entre nous, à ce don de docteur, et que jamais il étudie la parole de Dieu, ben, je suis désolé, ça ne va pas tomber comme ça. Il va peut-être être comme un airain qui résonne. Et ça fera du bruit, mais ça n'aura pas grand-chose. Par contre, quelqu'un qui a vraiment la capacité, de la part de Dieu, d'exposer la parole de Dieu, Dieu va lui donner à cœur d'étudier la parole, il va retenir cette parole, et il sera capable de l'expliquer de telle manière qu'elle soit compréhensible. Et ça, on connaît des frères qui ont cette capacité-là, qui lit un passage complètement, je n'arrive pas à comprendre, un frère qui l'explique, ah, c'est clair comme le plein jour. Mais ça, c'est un don que Dieu a donné, mais ne s'exercera que si celui qui l'a travaille. Sinon, ça ne marche pas.
Je vais te donner un exemple de prophète. C'est Acte 15. Au verset 32, ils sont à Antioche. Et Judas et Silas, qui eux aussi étaient prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. Consolation, exhortation, et les frères qui sont fortifiés. Alors, là aussi, j'aimerais dire, m'adresser aux jeunes frères. Il n'y a pas besoin d'être des docteurs pour avoir une parole de consolation, une parole pour fortifier, une parole qui fait du bien. Il suffit de se laisser conduire, parce que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il suffit de dire quelque chose qui vient de la part de Dieu, et qui va consoler, et qui va fortifier, et qui va encourager. Le prophète, il parle à l'âme, à la conscience, au cœur, aux trois. C'est une parole équilibrée. Et même si vous n'êtes absolument pas au courant des besoins des frères et des sœurs, eh bien voilà, vous avez une parole de la part de Dieu. Et ça peut être quelque chose de très court, quelque chose de donné, et vraiment quelque chose qui sera un encouragement pour d'autres. Alors, voilà, n'attendez pas d'être des docteurs, décidément au bout d'un moment suffisamment capables pour pouvoir enseigner l'assemblée, mais apporter quelque chose de la part de Dieu, ce sera bien. Il y a un ministère de consolation, je crois, aujourd'hui. Il y a des âmes meurtries, il y a des âmes blessées, et ça, tout le monde peut apporter quelque chose. Tout le monde peut faire du bien, de la part du Seigneur, frère ou sœur, dans le contexte dans lequel nous sommes placés, quelque chose qui va être là pour le fortifier, pour lui dire, allez, debout, continue, le Seigneur t'a mis là, et continue, tu peux encore faire quelque chose pour lui. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on peut avoir à faire les uns les autres.
Exemple, eh bien, 2 Timothée chapitre 1, verset 16. Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et n'a point eu honte de ma chaîne. Mais quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement et m'a trouvé. Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là. Tu sais, mieux que personne, combien de services il a rendu dans Éphèse. Quel beau témoignage pour un jeune Onésiphore. Et le grand apôtre a reçu cette consolation de la part du Seigneur par le moyen de ce jeune frère.